Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 197. Aujourd'hui, on va faire un spécial Une histoire d'amour, le second film de et avec Alexis Michalik, tiré de sa pièce de théâtre. On retrouve donc aujourd'hui le réalisateur-acteur et une de ses actrices principales, la sympathique Marika Soyer, qu'on avait vue dans Les Lendemains de veille et qu'on avait aussi interviewé à cette occasion dans Cinéphage. Et aujourd'hui, c'était lors de la conférence de presse organisée à Tours par notre partenaire les CGR Centre et son sympathique directeur Mehdi Belhadj, toujours aussi actif. Et donc, grâce auquel on a pu, avec Cinéphage, connaître un petit peu les tournages et les à-côtés du film. Alors, ce film très émouvant nous raconte, avec un subtil mélange de drame et puis d'humour quand même, hein, comment peut-être l'amour et ses évolutions sur plusieurs années à travers une famille atypique très touchante qui affronte les problèmes et les aléas de la vie. Au final, on va obtenir un film juste qui est porté par un très bon casting d'acteurs et d'actrices en devenir. On commence donc par un extrait de cette interview d'Alexis Michalik et son actrice Marika Soyer qui nous parle de la naissance du film. Bonjour, alors aujourd'hui on est avec Alexis Michalik et Marika Soyer, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Pour le compte de Radioactive et on va parler du film Une histoire d'amour. Donc tout simplement, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la genèse du film, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du film?
Voilà. C'est un film qui est l'adaptation de la pièce du même nom, Une histoire d'amour. Et en fait, cette pièce, elle n'a jamais dans ma tête, comme beaucoup d'histoires, elle s'est développée pendant une petite année. Et je me disais, je l'écrirai quand je serai au bon endroit émotionnel. Et suite à une rupture, j'étais au bon endroit émotionnel. Et je l'ai écrite à l'été 2019. Je me suis retrouvé en vacances avec toute une bande de copains, dont Marika et Juliette, de la Croix et Marika Soyer. Et on s'est fait une lecture comme ça du texte pour l'entendre. Et au bout d'une heure, on était tous en train de pleurer et j'avais mon casting, quoi. Et suite à ça, on a créé la pièce en janvier 2020. Et très vite, les gens m'ont dit, mais c'est un film, il faut que tu en fasses un film. Et puis, mars 2020, confinement, tous les théâtres ont fermé, j'ai eu le temps d'écrire l'adaptation. Et là, je me suis dit, ce qui serait vraiment super, ce serait d'amener l'équipe du théâtre au cinéma. Et donc, on a créé notre boîte de production avec mes films, dont c'est le premier film. Et on est allé chercher les financements avec le Pacte, France 2, Canal+. Et on a fait ce film à l'été 2021 qu'on vient vous présenter aujourd'hui.
Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est cette aventure collective, en fait, d'avoir l'équipe de la pièce, les acteurs, les actrices, donc un casting
nouveau
et un autre challenge, parce que le théâtre et puis le cinéma, c'est des cousins, on peut dire, mais il y a... Il y a des difficultés.
Oui, après, je pense que déjà, c'est mon deuxième film, donc j'avais déjà fait un film. Et puis surtout, un acteur qui joue au théâtre, il est capable de jouer au cinéma, quoi. Il faut juste parler un peu moins fort, quoi. Et puis ressentir les choses de manière plus intime et plus petite, et plus naturaliste, quoi. Mais je veux dire, c'est des très bonnes comédiennes, donc ça n'a pas été un énorme... Le passage de l'un à l'autre n'a pas été un énorme challenge, quoi, pour elles. Elles étaient juste. Et la seule chose, c'est que je leur ai écrit des nouvelles scènes aussi, donc des scènes qui n'étaient pas dans la pièce. Donc c'était un peu le prolongement de cette aventure, quoi. C'était comme approfondir une histoire qu'on avait déjà jouée une centaine de fois, quoi.
Le challenge était de trouver les sous. C'était surtout ça, en fait. Parce que, c'était ouais, les financements. Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de monter un film sans tête d'affiche. Et il y a le pacte qu'a suivi Alexis et Acme Productions. Et on est très heureux qu'il nous ait suivis. Voilà.
Oui, d'autant plus qu'Alexis, on peut le dire, c'est quelqu'un de multicasquette, hein, acteur, réalisateur, dramaturge, écrivain. On a pu le voir dans les téléfilms, dans des séries. Donc, je pense que dans le monde de la production, ils connaissent quand même ton nom.
Oui, bien sûr. Mais c'est une chose de connaître mon nom et une autre chose de me confier un budget de plusieurs millions d'euros avec des inconnus au casting. Donc ça a été, mais heureusement on a eu les partenaires qui nous ont dit dès le début c'est pas un problème pour nous. Nous on aime le scénario, on veut le faire le film avec vous et ça a été une très belle aventure. Et après pour l'adaptation ça a été un travail d'écriture, hein, puisque ben, le but c'était d'en noter la théâtralité. Je voulais pas qu'on voie le film en se disant ça se voit que c'est une pièce de théâtre. Je voulais qu'on le considère comme un objet de cinéma à part entière. Et donc, ben voilà, j'ai rajouté des décors, j'ai rajouté des scènes, j'ai enlevé des dialogues pour le rendre un peu plus cinématographique. Au cinéma, on a des gros plans, on a les maquillages, on peut faire vieillir les acteurs, on peut traverser vraiment 15 ans et on peut le voir. Alors qu'au théâtre, on ne peut pas vraiment le voir, il faut le raconter, quoi.
Entre autres les décors, puisqu'on là on a du décor naturel, on se balade. Je pense par exemple au Mont-Saint-Michel qu'on voit à un moment. D'ailleurs, comment est venue cette idée du Mont-Saint-Michel? Parce que...
Bah c'est dans la pièce, en fait, il y a une scène qui est dans la pièce, mais qui n'est pas dans le film, où William vient chercher Justine et il lui dit amène-la en vacances. Elle lui dit mais où ça, où ça? Il dit mais où tu veux, à la mer,
à la
la montagne,
montagne,
au Mont-Saint-Michel. Et elle finit par l'emmener au Mont-Saint-Michel.
Voilà, c'est arrivé comme ça. Comme
c'est arrivé comme ça, et puis il fallait un endroit qui soit un peu identifiable pour tout le monde, et puis qui soit accessible en voiture. Si je lui avais dit tu vas en Guadeloupe, bon, bah, ça aurait été un petit peu plus long. Donc le Mont-Saint-Michel, ça marchait, et même au point qu'il y a une adaptation israélienne de la pièce qui se joue actuellement à Tel Aviv, et ils ont gardé le Mont-Saint-Michel. Les filles vont au Mont-Saint-Michel en avion, quoi. Donc c'est sa preuve que le monument est suffisamment connu pour garder
International.
le lieu, quoi.
Première pause musicale avec le fameux Love Story, le film et l'instrumental, la version instrumentale de Love Story. On est dans le thème de l'amour, bien sûr.
Thank you.
Et second extrait où l'on retrouve la seconde partie de notre interview sur une histoire d'amour. Et toi, Marika, au niveau le fait de te retrouver avec des actrices que tu connaissais, et entre vous, ça se voit qu'il y a la répétition du jeu, mais t'as l'habitude des films de bande, c'était venu pour les Landman Pay, entre autres. Là, c'était encore une autre bande.
Ouais, bah, c'est une grande chance hein, de faire un film en famille, hein, parce que, enfin, on est vraiment presque au-delà de l'amitié, hein, tous. Hein. C'est une famille, on passe nos vacances ensemble, on a plein de souvenirs, on se connaît par cœur, donc ça a été une chance sur ce film, parce qu'effectivement, dit petit budget, donc peu de temps, hein, il a fait le film en 31 jours avec 56 décors, donc ça ne parle pas forcément aux gens, mais c'est très peu, c'est très rapide, et heureusement, la patte, l'ADN d'Alexis, c'est le rythme au théâtre, comme au cinéma, donc il fallait donner du rythme à ses journées de travail, et le fait de bien se connaître, ça nous a permis d'aller vite, et de bien connaître nos personnages aussi. Ça nous a permis de rentrer des séquences rapidement, tous les jours.
Oui, puis on découvre des personnages que les gens connaissent un petit peu plus par la télévision. Je pense à Pauline, entre autres. Et je l'avais déjà vu dans quelques téléfilms ou d'autres apparitions. Et je trouve que là-dedans, elle a un rôle vraiment excellent en danseuse. Moi, elle m'a épaté dans ce rôle de danseuse.
Bah, pareil, elle était avec nous sur le scène au plateau. Et c'était une rencontre magnifique. Et du coup... Bah, on a voulu prolonger cette aventure quoi. Donc, en amenant toute cette équipe. Donc, elle nous a suivis au cinéma, même si dans la pièce, elle a quand même un petit peu plus de texte. Et là, effectivement, dans le film, elle a beaucoup plus de présence.
C'est surtout une présence. Donc, de jouer quelqu'un qui est là sans être là, c'est ouais. Pas évident.
Non, mais elle fait ça très bien. Et justement, elle a un truc à la fois dans les yeux et dans le corps où elle était parfaite pour le rôle.
Oui, puis on a... jusqu'à le moment où on comprend,
ouais.
C'est vrai qu'il y a cette partie mystérieuse.
Elle est là.
Elle est là.
Bah, elle dégage quelque chose de très, très lumineux et sympathique. On a Pauline, on la voit, elle a du rire dans l'œil, elle sourit tout le temps. Il y a quelque chose de... On l'aime tout de suite, Pauline. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, d'ailleurs, pour ça.
Complètement. Et est-ce qu'il y a une difficulté de jouer avec une jeune actrice, celle qui joue Jeanne en particulier?
Franchement, au contraire, c'est un atout extraordinaire d'avoir une jeune actrice qui est dans l'émotion comme nous. Elles étaient... je dis elles parce qu'elles étaient plusieurs hein, à jouer au théâtre. Et c'était, moi vraiment, ça me portait de façon incroyable d'avoir une enfant en face de vous qui est dans l'émotion, qui vous renvoie la balle. C'est une aide à l'émotion formidable, quoi. Et Léontine, du coup, il s'est trouvé qu'au moment où on a fait le film, c'était celle qui était là, quoi. On avait à ce moment-là deux des actrices qui étaient déjà trop grandes pour le rôle. Ça s'est joué entre deux filles. C'est Léontine qui a décroché.
Souvent, quand on discute avec des réalisateurs, ils disent le plus dur à tourner, c'est avec des enfants. C'est ouais. Enfin des enfants peut-être en bas âge, parce que là c'est quand même une ado.
C'est, hein. Moins de 5-6 ans, quoi. Là ça devient plus compliqué. Bah, 12 ans, 13 ans, ça va. Hein. Elle est grande, elle n'était pas là en train de faire n'importe quoi. Elle était plus pro que nous.
Ayant fait aussi la pièce de théâtre, elle devait avoir l'habitude.
On la connaissait bien.
Une grande importance pour la musique du film. C'est ce que j'ai remarqué. J'avais vu ça aussi dans les Landman Veil, on en avait parlé. Et là, voilà. Et donc, vous avez travaillé beaucoup sur la musique originale pour des droits d'auteur, mais aussi, c'est vrai qu'un film, c'est très important qu'il ait aussi sa patte musicale.
Tout à fait, oui. Et Romain Trouillet, le compositeur, j'avais déjà travaillé avec lui sur Edmond et sur plusieurs de mes spectacles. Et ça a été une super aventure, compliquée, hein, avec beaucoup de rebondissements, hein, parce que. Effectivement, il y a des morceaux qu'on imaginait plutôt des morceaux, des reprises. Et finalement, on a changé notre fusil d'épaule plusieurs fois en cours de montage. Mais à chaque fois, Romain, c'est quelqu'un qui s'adapte sans égo, sans souci, qui travaille vraiment très bien, très vite. Et c'était toujours un plaisir.
Petite pause musicale, toujours sur le thème de l'amour, avec Sailor et Lula, le fameux « Love Me Tender » d'Elvis Presley.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Et un troisième extrait où on va retrouver Alexis Michalik et Marika Soyer.
Comme chaque film, il y a des difficultés. Donc, on ne parle pas des difficultés financières qui sont souvent inhérentes à beaucoup de films. Quelles sont les autres difficultés que vous avez éventuellement rencontrées sur ce film ?
Bah, honnêtement, c'était principalement le temps qu'on avait, puisque effectivement, on devait rentrer tout dans un temps imparti, donc ça allait très 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 vite. Et moi, du coup, ça jouait un peu sur le fait d'être devant et derrière la caméra, parce que si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais peut-être pu regarder la prise après l'avoir faite. Et là, c'était pas le cas, donc il fallait avancer. Donc à un moment, il a fallu que je lâche prise et que je me dise, bon, bah, je vais faire confiance à ma script, je vais faire confiance à la chef-op, et puis... je verrai au montage si c'est pas trop nul, quoi. Parce que, évidemment, moi je voyais toutes les performances des filles, de Juliette, Marika, Pauline, Léontine, mais quand c'était moi qui jouais, bah, j'étais un peu dans l'inconnu, quoi.
Oui, justement, quelle est la difficulté que tu as rencontrée en tant qu'acteur, réalisateur ?
Ben, c'est le temps, hein. Vraiment, j'y reviens toujours, mais c'est le temps. Et je pense que les scènes les plus dures, évidemment, c'était les scènes d'émotion. Il y en a quelques-unes dans le film, mais. Le plus dur, c'est de rester dans sa bulle d'émotion alors qu'on est obligé de ressortir à chaque fois pour donner des indications à l'équipe, décider ce qu'on fait. Et c'était pas évident. Dès que c'était une scène un peu de comédie, j'étais beaucoup plus détendu. Le zoo, c'était tout le passage du zoo. J'en garde le souvenir d'une journée hyper joyeuse. Le mariage aussi, alors qu'on avait quand même une grosse journée à rentrer. J'étais beaucoup plus détendu que quand je devais sortir des choses profondes et intimes. D'émotion, de tristesse, ou là, bah, on peut pas tricher, quoi.
Et toi, Marika ?
Bah, y a pas eu de difficultés sur le tournage, c'est juste... Nous, on faisait confiance à Alexis. Encore une fois, tout allait très vite, donc on faisait pas énormément de prises par séquence. Et donc, c'est de faire confiance. Il y a un moment donné où tu lâches prise, et si ton réel te dit que c'est bon, c'est que c'est bon, et on avance et on continue. Donc, toujours le temps, hein, je crois.
Et si chacun d'entre vous avait une anecdote, c'est toujours ma petite question sur l'anecdote, qui vous a marqué dans le film, qui vous restera, alors en bien ou en mal, Ça, en général, on en choisit une bonne, mais ça peut être des fois pas très agréable. Mais...
Moi, l'anecdote principale, c'est qu'à un moment, on a tourné en Corse et on devait tourner 3 jours en Corse. Et puis la région, finalement, nous a aidés. Et donc, il a fallu qu'on tourne 8 jours en Corse. Et donc, il a fallu qu'on rapatrie 5 décors qui n'étaient pas du tout prévus pour être en Corse. Et donc, il y a plein de scènes dans le film qui sont tournées en Corse, alors qu'on ne le dirait pas du tout. Comme le Ikea, c'est la foire fouille de l'île Rousse. Le train de banlieue, c'est en fait le train qui va de Ajaccio à Bastia. Beaucoup de scènes à l'hôpital, la scène de la FIV, la vie claire, le magasin bio, le travail Justine. Enfin, je trouve ça... Et ça, c'est génial, quoi. C'est le cinéma, quoi. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a aucun souci. Ça se passe vraiment à Paris. Il y a des scènes qu'on a tournées en région parisienne et d'autres en Corse et qui se répondent directement, alors qu'on les a tournés ni au même endroit, ni au même moment, quoi.
Voilà. C'est vrai qu'en tant que spectateur, là j'ai l'envers du décor, mais on le voit pas, c'est tellement bien fait. C'est drôle.
Et moi, il y a une journée qui m'a profondément marquée, je pense que c'est le cas de Juliette aussi, c'est toujours une question de temps. On a filmé tout le trajet entre Paris et le Mont-Saint-Michel et on s'est servi de tout ce trajet d'autoroute pour faire les scènes de voitures, donc toutes les scènes enchaînées de voitures entre Katia et Justine, toutes les aires d'autoroute. Et donc voilà, on s'est servi du chemin pour trimballer toute l'équipe pour tourner les scènes. Et ça, je trouve ça assez incroyable.
En même temps qu'on avançait.
Ouais, en même temps qu'on avançait au fur et à mesure. Et puis en plus, on avait mis la voiture donc, sur une remorque et Alexis n'était pas avec nous dans l'habitacle. Donc il nous parlait au toki et on enchaînait toutes les scènes de voitures les unes à la suite des autres sans s'arrêter. C'était un moment hyper éprouvant où on n'avait pas de contact physique avec lui. Donc c'était assez particulier, mais ça fait des souvenirs uniques.
Toujours notre petite pause musicale et on continue sur le thème de l'amour avec le fameux West Side Story et le morceau qu'on appelle Intermission. Quatrième et dernière partie de l'interview sur le film Une histoire d'amour, où, entre autres, Alexis Michalik et Marika Soyer vont nous parler de leur futur projet.
Donc, Tours, aujourd'hui, c'est une des avant-premières. Vous avez déjà assisté à quelques avant-premières. D'ailleurs, on le voit que c'était assez éprouvant.
Non, rien à voir, c'était un vrai bonheur.
Je parlais éprouvant physiquement, mais après, oui, on le voit, parce que là, on est encore en train de blaguer ensemble et tout.
Ouais.
Et comment était reçu le film en général ?
Non, très bien, beaucoup d'émotions de la part des spectateurs. On a eu vraiment beaucoup de retours très émouvants où ils nous confiaient chacun leur ressenti. Et on a remarqué que souvent, les gens restaient très longtemps au débat, ils partaient pas. Ils avaient plein de questions à poser jusqu'à la fin, quoi. Et que chacun, quand on leur demandait si ça vous a ému, c'est quoi la scène qui vous a le plus ému, chacun avait une réponse différente. Chacun disait moi la scène que j'aime vraiment c'est la scène du supermarché. Moi la scène c'est et chacun vraiment avait sa propre émotion, quoi. Donc c'est plutôt bon signe.
Oui, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que le film, il parle à tellement d'endroits différents que chacun peut se retrouver quelque part dans ce film, que ce soit... C'est pas juste une histoire d'amour entre deux femmes, c'est le lien d'amour qu'il y a entre un frère et sa sœur, entre un oncle et sa nièce, entre une maman et sa fille. Moi, je suis aussi très étonnée à quel point, et surprise de me rendre compte à quel point ça touche les parents, parce que ça parle beaucoup aux parents que les gens sont, ce film, avec toute l'histoire autour de Jeanne. Et...
Oui, puis ça nous questionne sur la mort, la vie, le bonheur, le malheur, enfin tout ce qui est une vie, quoi, tous les aléas d'une vie, la maladie... Et malgré tout, on ressort apaisé de ce film, je trouve.
Ouais, je voulais pas qu'on en sorte déprimé. D'abord, c'est pas ma philosophie, puis c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas l'état dans lequel j'ai envie de laisser les spectateurs. J'avais envie qu'on le traverse en étant bouleversé, idéalement, en étant ému, en étant touché, en riant, en ayant de l'humour, et qu'on en sorte avec plutôt une envie de vivre, quoi. Une sorte de pulsion de vie à la sortie, et pas un désir de mort, quoi. Plus vraiment de se dire, bon, bah, la vie est courte, il faut que je fasse les choses, quoi. Il faut que j'aime encore avant d'avoir aimé.
On va parler un petit peu de vos prochains projets avant de conclure. Alors, quels sont vos projets respectifs? Je pense que, vu que tu es très créatif derrière, il doit y avoir encore plein de choses.
Oui, bah, là, je vais présenter les Molières cette année. Donc, c'est mon boulot du moment. Hein. Et après ça, je vais monter un autre spectacle pour l'année prochaine, qui va s'appeler Passeport. Ma prochaine pièce.
Une envie d'un troisième long métrage?
Je vais déjà sortir celui-là, voir si ça intéresse quelques personnes, et puis on verra selon les retours du public, je pense. Moi, je fonctionne beaucoup avec le public. S'il y a des gens qui viennent, j'en tire toujours les conclusions, quoi. Je sens que ça vaut la peine de repartir, ou si je me dis, bon, bah, en fait, pourquoi je m'embête à faire du cinéma alors que je peux faire du théâtre et être très heureux, quoi.
Et justement, est-ce que tu... te sentirais capable de passer directement au film sans passer par l'intermédiaire, parce que pour l'instant, dans Raquetemont, tu as dans un petit coin de ta tête éventuellement de
la complètement possible. Complètement, j'aimerais bien, ouais. Là, j'aimerais bien que mon prochain film ce soit pas une adaptation, quoi. Je l'ai fait deux fois, c'est super, de façon très différente, parce que Edmond, c'était une grosse production avec des acteurs connus, etc. Là, c'était une production maison en famille avec toute une bande d'amis, et j'avais envie d'aller au bout de ce projet. Le prochain, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de nouveau.
J'ai vu une belle brochette d'acteurs. Quand on voit le film, hein, ça c'est mon avis personnel, j'ai trouvé que souvent, on avait vu ça pour les lendemains d'ail, il n'y a pas besoin des fois d'avoir des super stars connus, ça va être des stars en devenir pour moi. Il y a des gens, on le sent, hein, on en avait parlé. Et donc, des fois, c'est bien aussi d'avoir des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir.
Ouais, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont venir les voir, ces nouvelles têtes? C'est la question qu'on se pose. On verra le 12 avril.
Et toi, Marika, au niveau des projets?
Alors moi, déjà, j'ai envie de profiter de la sortie de ce film. Donc, j'attends de voir... J'ai hâte qu'il soit en salle. Et puis, bah, comme tous les acteurs, hein, on passe des castings pour des pièces, pour des essais, pour des films. Tout est en cours. Rien d'annoncé pour l'instant ou à annoncer. Mais je suis très heureuse.
Donc, pour terminer, une petite phrase pour donner envie d'aller voir ce film à des auditeurs qui ne seront pas présents aujourd'hui à Tours CGR Centre. Justement, le but de notre émission aussi, c'est d'entraîner, par ces interviews, l'envie de voir ce film.
Bah, je pense que si vous avez envie de rire et de pleurer en même temps, c'est un bon film. Je pense.
Comme il disait, hein, quand on sort de ce film, on a envie d'appeler ses copains, de leur dire qu'on les aime. Et je pense que c'est une belle déclaration d'amour, ce film, à la vie, et qui donne envie d'être vivant et de profiter de chaque seconde. Donc, à tous les amoureux de la vie, venez voir une histoire d'amour.
Eh bien, je vous remercie. Et puis, on souhaite un succès. Et puis, de prochains longs métrages, peut-être en commun. Est-ce qu'on espère vous revoir bientôt à Tours. Merci.
Merci.
Et enfin, dernière petite pause musicale où on va mettre la bande originale de Love Actually. Et c'est l'original soundtrack, le fameux All You Need Is Love des Beatles, à revisiter.
Love, love, love. Love, love, love.
be done. Love. Nothing you can sing that can't be sung. Love. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. Love. No one you can save that can't be saved. Yeah. Love. Nothing you can do, but you can love. Learn how to be you. Time is easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
Eh bien, maintenant, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Eh bien, mon coup de cœur vidéo de la semaine, c'est Mission Paradis, Come As You Are, en version originale, un film américain de Richard Wong de 2019. Eh bien, il s'agit d'un remake de Hasta la Vista, le film espagnol. Alors, l'histoire, c'est Scotty, Matt et Mo, qui sont des potes, ils ont entre 20 et 40 ans, et ont pour point commun d'être handicapés et de vivre toujours chez leurs parents. Et ils vont décider tous les trois de partir dans un road trip rocambolesque pour connaître leur première fois dans une maison close de Montréal. Alors rien que le pitch m'avait amusé. Et bah, bien sûr, rien ne pourra faire capoter la mission, pas même leur handicap. J'ai découvert par hasard ce film et j'avoue que c'est un regard justement super sympathique sur le monde du handicap. C'est pas « Oh les pauvres !» Non, là on voit un film qui parle de la réalité des choses, de la vie, et c'est hyper bien fait. Les acteurs, qui ne sont pas des acteurs connus, jouent très, 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 très bien, et on passe un très bon moment, et c'est plutôt un feel-good movie, donc je vous le conseille. Le coup de cœur rétro de la semaine, eh bien, là, j'ai été un petit peu plus loin. Pareil, un film que j'ai eu l'occasion de revoir récemment, enfin de voir, puisque je ne l'avais pas encore vu, c'est le fameux Maigret tend un piège, donc un film franco-italien, adapté, bien sûr, d'un roman homonyme de Georges Simenon, et réalisé par Jean Delannoy, et sorti en 1958. Et on retrouve alors Jean Gabin dans le rôle du commissaire Maigret, Annie Girardot toute jeune, et Lino Ventura aussi dans un second rôle de policier. Alors, ça se passe dans le quartier parisien du Marais, et plusieurs femmes seules ont été successivement assassinées, chaque fois la nuit. Donc, le commissaire Maigret va soupçonner le criminel de chercher à le provoquer. Et donc, pour ça, il va essayer de lui tendre un piège en arrêtant un faux coupable, un consentant, qui s'appelle Mazel, de manière à obliger le vrai meurtrier un petit peu à sortir du bois et lors de la reconstitution du dernier crime. Donc, un auxiliaire de la police féminin va servir d'appât et elle est agressée, mais elle réussit à tenir tête à son agresseur et ce dernier, malgré ça, va arriver à s'enfuir malgré tout le système policier qui est autour. Pendant ce temps, l'inspecteur Lagrume, qui a pris en filature une autre jeune femme un peu suspecte, qui s'appelle Yvonne Morin, dont l'attitude lui paraît vraiment un petit peu louche. Et Maigret va rendre visite d'abord à celle-ci et faire la connaissance de son mari, Marcel, qui est un architecte décorateur. Et il s'avère que Marcel a passé sa jeunesse place des Vosges et que sa mère habite précisément le pâté de maison où disparaissent le fameux agresseur lors de la dernière tentative. Et bientôt, Maigret est certain de tenir le coupable et va arrêter Marcel Morin. Mais surprise, un nouveau crime est commis alors que le suspect est en garde à vue au Quai des Orfèvres. Donc, un très bon Maigret, une très bonne version. Ça permet aussi de voir Annie Girardot débutante, un casting, comme je disais, très intéressant. Et puis, un suspense à la française. Des rebondissements, parce que des fois il y a des films en noir et blanc où c'était un petit peu tiré par les cheveux, alors que là il y a une bonne intrigue. Moi j'ai trouvé assez sympathique, je voulais voir ce que ça a donné et j'ai pas été déçu. Le coup de cœur news, Samuel L. Jackson et Vincent Cassel ont été choisis pour être les acteurs principaux du thriller d'action Damage. Alors, le pitch, rapidement, c'est un détective de Chicago qui va se rendre en Écosse après que des crimes d'un nouveau tueur en série correspondent à ceux sur lesquels il avait enquêté 5 ans plus tôt, dont l'assassinat de sa petite amie. Donc, il se sent vraiment concerné. On ne sait pas encore qui, et même si on se penche pour savoir qui va jouer le policier, qui va jouer le suspect entre les deux. Pour l'instant, la production laisse le mystère, bien qu'on verrait plutôt dans le rôle du bad guy Vincent Cassel et puis Samuel L. Jackson plutôt dans le flic, mais on sait que les deux peuvent aussi bien jouer l'un que l'autre ce genre de rôle. Le reste du casting comprend entre autres Gianni Capaldi, qu'on a vu dans A Day to Die, Katie Dickey, qu'on a vu dans The Witch, la sorcière, et John Hannah, qui était dans La Momie, qui jouait le beau-frère de Brendan Fraser, si ça ne vous dit pas quelque chose, ça vous donne un petit peu la vue. Et à la tête du projet, on va trouver Terry McDonough, qui a notamment réalisé les épisodes de Killing Eve, Better Call Saul, et bien sûr Breaking Bad. Donc un casting et un réalisateur assez sympa, donc à voir. Eh bien, les avant-premières et les événements qu'on peut avoir en Touraine dans nos cinémas, il y aura Malangocha le dimanche 16 avril 2023 à 16h au CGR de Lyon, en présence de l'équipe du film. On a aussi notre tout petit mariage le dimanche 23 avril à 15h, en présence d'Ahmed Silla et du réalisateur Fred Quiring. On a le Nikon Film Festival de court-métrage, jeudi 13 avril 2023 à 20h. Et c'est la 13e édition du genre, et ça sera au CGR Centre. Et son directeur m'a dit que c'était assez sympa, parce que c'est une sélection de films de court-métrage, et parmi eux, des fois, on trouve les futurs grands réalisateurs. Donc, si vous aimez le court-métrage ou vous aimez découvrir des nouveaux talents, n'hésitez pas à aller voir ce festival. Dans le cadre du Japanim Festival, on peut voir aussi Le Château dans le Ciel, le mercredi 19 avril à 19h30. Et ça, c'est en partenariat avec SIA Japan Tour Festival. Et ça, c'est au CGR Centre. Et puis actuellement, on reste dans le thème asiatique, il y a le FICAT, le Festival International du Film Asiatique, qui est au studio là au mois d'avril actuellement. Donc, si vous êtes fan de toute la culture asiatique en général, puisqu'on voit du coréen, du japonais, de l'indonésien, de l'indien, Vous avez plein de choses. Et puis tout autour, il y a plein d'animations, des expositions, des dégustations. Ceux qui aiment les mangas, il y a aussi souvent un stand manga et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des studios pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et c'est assez intéressant. En général, une fois j'avais participé, j'ai vu 2-3 films et c'est vrai que c'était assez sympathique. On fait aussi des découvertes. Et entre autres, j'avais découvert à l'époque celui qui allait devenir, avec Parasite, le vainqueur de Cannes. Bon, c'est toujours sympa. Et puis aussi des rétrospectives avec des vieux films japonais en noir et blanc. Des fois, il y avait du Kurosawa. Donc là, allez voir le programme. Et je pense que ça peut intéresser tous les gens qui aiment la culture asiatique. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centre et de Lyon, sur notre site radioactivefm.fr. Vous allez juste cliquer sur les logos et vous avez tout ça à votre disposition. Entre autres, je signale un des coups de cœur, on en avait parlé justement à l'époque dans les coups de cœur news, eh bien c'est D'Artagnan, la première partie qui est sortie avec un super casting. Et donc, il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour aller le voir, et j'en fais partie. Nous voici arrivés à la fin de ce Cinéphage 197 spécial Une histoire d'amour. Un grand merci au réalisateur, acteur et son actrice, et aussi à nos partenaires, les cinémas CGR Centre. Un grand merci aussi à Vincent qui est à la technique aujourd'hui avec moi. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'on est content de pouvoir vous faire partager cette rencontre pour vous donner l'envie de voir ce long métrage, mais aussi d'aller au cinéma qui en a bien besoin. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain Cinéphage. En attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.